Bonjour et bienvenue dans Bière et Moustache, le podcast qui parle de bière, mais pas que. Alors aujourd'hui, je vous emmène à Gris-Barre-au-Val, dans la vallée de Munster, à la rencontre de Seb, de la brasserie Spo. On a profité d'une belle journée de mai pour faire un enregistrement en extérieur. Et d'ailleurs, je tiens à remercier son voisin qui a pris un grand plaisir à tondre la pelouse pendant l'enregistrement. Voilà, je voulais également prendre un instant pour remercier tous les tipeurs et toutes les personnes qui soutiennent le podcast et vous dire que cet été, il va y avoir quelques petites surprises, dont un épisode en collaboration avec un autre podcasteur qui arrive. On sera sur un mois de juillet qui est vraiment placé sous le signe de la barrique, avec donc cette première partie et la deuxième qui sera là d'ici 15 jours. Et entre-temps, voilà, vous aurez une petite surprise. Salut à tous, aujourd'hui je suis avec Seb de la brasserie Spo et nous sommes, alors j'ai oublié le nom du village, c'est
Gris-Barre-au-Val.
Gris-Barre-au-Val,
dans la vallée de Munster.
Voilà, banlieue de Colmar, on peut dire ou pas vraiment?
On peut dire.
Ou c'est péché de dire ça?
Non, c'est pas péché.
Donc une brasserie récente, parce que tu as ouvert officiellement depuis...
Déclaré en novembre 2020 et l'autorisation finale des douanes reçue il y a moins de 3 semaines.
Bière qui est commercialisée depuis 3 semaines pour le coup.
Environ.
Oui, le temps de livrer tout ça.
Le temps de livrer.
Et donc brasserie tout jeune, mais toi tu es pas si jeune finalement dans le monde du brassage.
Dans le monde du brassage, de tête, je dirais que j'ai commencé à brasser en 2012. Comment je suis venu au brassage, c'est tout simple, c'est que j'ai fait des abeilles, enfin de l'apiculture pendant près de 2-3 ans, que j'avais un copain allemand qui venait avec sa copine chez nous et elle faisait aussi de l'apiculture et lui il disait moi je m'en fous de votre miel, on pourrait faire de la bière. Alors je lui ai dit eh ben écoute, la semaine prochaine on commence. C'est parti de là, on a brassé avec 3 potes et puis au fur et à mesure ben, on s'est séparés parce qu'on était tous un peu loin, donc chacun a brassé un peu de son côté. Aux alentours de 2013, en fait, on a rencontré plein d'autres brasseurs dans notre belle vallée de Munster. On s'est retrouvés à la fin, au bout de 3-4 ans, à une quinzaine de brasseurs amateurs pour 15 000 habitants. Maintenant, à l'heure actuelle, il y en a pas mal de ces brasseurs qui sont passés pro. On va parler de la brasserie Tintamarre, la brasserie du Marquer, la brasserie Thal, évidemment, qui est juste à 1 km de chez moi. Et le brasseur de la brasserie de Lutterbach, qui faisait partie aussi de notre petit groupe de brasseurs. Donc on se retrouvait à peu près 3-4 fois par an et on faisait des grosses dégustations avec tout ce qu'on avait brassé pendant ce laps de temps.
Donc ça fait un gros tiers du groupe qui est devenu pro en fait.
Oui, un gros tiers et ouais. Ben, y a aussi Olivier Ackerer de Alsace Beer Trip qui travaille chez Thal et qui a son tourisme brassicole qui fait aussi partie de ce groupe.
Au début, le brassage c'était classique dans des casseroles ou il y a eu tout de suite investissement dans du matériel?
Ah bah, faut savoir que chez moi il n'y a jamais d'investissement. Ça c'est déjà la base. Alors ça a été dans des cuves émaillées. On a investi dans une casserole 70 litres par la suite et après j'ai la chance d'avoir une activité dans le lieu pharmaceutique qui jette pas mal de choses et j'ai pu récupérer tous mes fermenteurs, donc des petits seaux bleus qu'on trouve dans le commerce pour mettre du grain que j'ai adapté en fermenteur. Toute la gamme au niveau des volumes parce que j'ai commencé par du 30 litres comme tout le monde et au bout de 2 ans je suis arrivé à du 100 litres avec les fermenteurs à côté et tout ce qu'il faut pour brasser.
Particularité de la brasserie, tu as uniquement des fûts ?
Uniquement des barriques alsaciennes, donc qui ont contenu un produit alsacien.
D'accord.
Donc ça peut varier du côté pinot noir, un fût de Tokay pinot gris, j'ai un fût de fine Alsace et après ben... Un jour, peut-être, on essaiera de trouver des fûts de spiritueux, whisky. Si quelqu'un me trouve un fût de cidre alsacien, je suis preneur aussi. Et ça restera que de la barrique alsacienne.
Comment t'en es arrivé à te dire « je vais uniquement faire vieillir en barrique » ?
Alors, parce que je suis passé par tous les styles. Hein. Dans le groupe de brasseurs amateurs qu'on était, j'étais un peu l'innovateur, celui qui touchait à tout, qui essayait tout, n'avait pas peur de foirer son brassin. Et j'ai commencé par faire de la spontanée, j'ai commencé par faire des bières acides alors que personne n'osait le faire. De la barrique que j'avais fait avec la brasserie Tintamarre à Brighton Bar, on avait fait un petit projet, un barley wine vieilli dans un fût de pinot noir. Et le coup de cœur cœur, ça a été le Craft Beer Festival 2019. Je donnais un coup de main à mon frangin qui est brasseur chez Bendorf et à côté de moi, il y avait la brasserie Tue-Tête. À Tue-Tête, et là, ça m'a vraiment mis un coup de fouet. Donc ça, c'était en septembre et en décembre, j'avais fait l'acquisition de 3 barriques de 350 litres pour lancer mon projet dont je savais que le projet allait durer bien un an et demi avant de pouvoir commercialiser.
Oui, parce que quand on fait uniquement de la barrique et qu'on se dit « je vais me lancer là-dedans », c'est il y a minimum un an. En général, c'est pratiquement 2 ans avant de sortir les premières bières, non ?
Oui et non. Si on dit qu'on fait que de la barrique, on peut sortir nos bières au bout de 3 à 6 mois. Mais si on dit qu'on fait de la barrique et qu'on met de la brette dedans, là, c'est un peu plus long. Je pense, après c'est en fonction du goûter, hein. C'est quand on goûte, on sait si c'est bon, si c'est pas bon, on laisse plus longtemps, on peut embouteiller, donc je me fixe entre 9 et 18 mois de barrique pour avoir un produit fini.
Et comment tu définis le temps que la bière va passer en barrique ? C'est vraiment en goûtant régulièrement ?
C'est en goûtant, on va dire, tous les 2 mois, en essayant de voir l'évolution. Après, ça commence à être compliqué quand on commence à avoir 16 barriques, parce que goûter les 16 barriques d'affilée, ça ne va pas être possible. Et puis, on ne va pas rentrer à 4 pattes dans la maison, parce qu'il y a quand même des pourcentages d'alcool assez forts chez moi, donc, parce que je suis quelqu'un qui aime bien faire des bières fortes. Même si, sur les derniers brassins que j'ai faits, je vais quand même être un peu plus faible au niveau de l'alcool.
Tu fonctionnes comment sur le principe des single casques, ou alors tu fais des assemblages ?
Pour l'instant, je ne fais que des single casques. Après, j'ai différentes sortes de recettes. On va se comparer un peu à Simon Damonide qui fait toujours la même recette. Moi, je vais me baser sur le style que je vais faire. Donc, automatiquement, ça sera un single cask parce que je vais pouvoir faire de l'ambré, comme je vais pouvoir faire des gros Imperial Stout, comme je vais pouvoir faire des Gauze, comme je vais pouvoir faire des Berliner Weisse. Je reste dans les styles existants et j'apporte juste la touche sauvage avec les brettes que je mets dedans.
Comment tu sélectionnes en fait les brettes que tu vas utiliser ou les levures ?
Alors actuellement, comme je suis assez jeune dans le milieu, pour l'instant, je teste pas mal de sortes de levures. J'ai à peu près une dizaine de souches de brettes différentes. Maintenant, je commence à avoir mes petites affinités sur celles à choisir, celles que peut-être que je ne referai pas parce qu'elles ne m'apportent pas grand-chose. Après, voilà, c'est comme partout, pour l'instant, c'est des brettes du commerce, hein. On ne peut pas les trouver comme ça. Mais je compte aller vers la récupération de levures de mon environnement extérieur que j'ai chez moi, parce que j'ai un jardin, j'ai des fruitiers, donc j'ai déjà fait quelques petits tests. On est en cours d'études pour essayer de sortir une première barrique 100% levure locale.
Tu as déjà eu une mauvaise surprise et une barrique que tu as dû jeter entièrement ?
Actuellement non. L'avantage de la brette, on infecte notre bière. Après, maintenant, il faut voir s'il n'y en a pas une qui risque de partir en acétique. Après, si ça part en lactique, moi, je suis content parce que ça donne un peu plus d'acidité. Pour le moment, je touche du bois. J'ai vraiment, vraiment eu aucun souci.
Les premières bières que tu as sorties en barrique, maintenant, elles ont quoi, 1 an, 2 ans ?
Alors, la première bière que j'ai sortie en barrique, c'est la saison. Et elle a été brassée fin décembre 2019. Donc, on est à un vieillissement de à peu près 15 mois de barrique.
Ton procédé de fabrication, si j'ai bien compris, toi, tu fais un brassage classique. Avant de mettre en barrique, tu brasses, tu as ton ébut, tu fais ton refroidissement. Ensuite, tu mets en barrique et c'est là que tu mets tes levures ou tu pitches. Ou
voilà.
Ça dépend de...
Voilà, je brasse en classique, j'ai l'ébullition, j'ai mon whirlpool comme tout le monde peut le faire pour avoir le moins de saleté parce que le refroidisseur à plaque n'aime pas trop les morceaux de houblon. Et ensuite, refroidissement, mise en barrique, alors ça dépend. Si je vais faire de la 100% brette, je vais mettre en barrique directement avec les levures pitchées dans la barrique. Si je fais de la mixte, je passe en fermenteur à côté pour faire une première fermentation pour que justement j'ai pas trop énormément de levures au fond de la barrique qui peuvent aussi amener des faux goûts.
Au niveau de la sélection des barriques, comment que ça se passe ?
Alors celle-là, la sélection des barriques, alors moi je vais le redire, mais la sélection des barriques, là personnellement je favorise des viticulteurs alsaciens qui sont en biodynamie ou en déméter ou en... J'essaye de favoriser ça. J'ai eu la chance de pouvoir en récupérer le compte cette année. J'ai pas encore commencé à démarcher pour l'année prochaine, mais je vais aller voir d'autres viticulteurs pour discuter avec eux et essayer de trouver soit un partenariat, parce que j'ai quand même envie de travailler un peu leurs produits. Donc on verra ça, on en saura plus, je pense, courant mois de septembre à peu près.
Oui, parce que qui dit jeune brasserie, on va dire que tu as une petite production. Sur l'année écoulée, tu sais à peu près combien tu as sorti en volume ?
Alors, ça dépend, on parle de quel volume ?
Combien tu as brassé en 2020 ? Comme ça, ça sera peut-être plus simple.
Combien j'ai brassé ? En 2020, j'ai brassé à peu près 30 hectos.
Donc ça fait en barrique, pour qu'on ça se rende compte ?
Ça fait à peu près 16 barriques à peu près.
On est chez toi, dans ton jardin, donc tu as une partie de tes barriques qui sont là où tu produis dans un garage transformé en salle de brassage, et tu as une autre partie dans ta cave. Est-ce que tu as déjà réfléchi au nombre de barriques maximum que tu pouvais stocker ici ?
Stocker ici, oui, j'ai réfléchi, parce que si je reste dans cette configuration-là, je peux passer au maximum, on va dire, à 30 barriques, mais je suis en train d'aménager ma grange à côté pour pouvoir rajouter facilement une quarantaine de barriques tout autour des murs. J'espère arriver à sortir à terme, dans 3-4 ans, une cinquantaine à soixantaine de barriques.
Donc il y a vraiment cette volonté de te créer un chez, en fait, chez toi, vraiment.
Voilà. C'est vraiment rester chez moi pour le moment, parce que l'avantage quand on débute, c'est de ne pas avoir de loyer de location. On est au plus près de sa famille, parce que voilà, j'ai une famille avec 4 enfants, donc ça prend du temps. Et c'est aussi d'avoir tout sur place et pas besoin de se déplacer pour brasser, parce que c'est l'avantage. On se lève le matin, on se dit hop, on va faire un brassage, on peut y aller. On est à domicile, il n'y a pas de problème. Quand on a lancé une fermentation, est-ce que c'est parti, est-ce que c'est pas parti? Si on n'arrive pas à dormir la nuit, on n'a pas besoin de prendre la voiture pour aller voir si tout s'est bien passé. C'est mon concept. Et puis après, comme on le dit, je suis en activité secondaire pour le moment, donc c'est pas évident non plus d'avoir un local, d'avoir un loyer et puis de faire les deux, parce qu'on passerait plus de temps à la maison.
Ça, on n'en parle pas assez, mais certains brasseurs en parlent, c'est sur les premiers brassins et autres, il y a effectivement ce truc de ne pas dormir la nuit parce qu'on a peur qu'il y ait un souci sur le brassin. Quoi.
Quand le brassin ne part pas la première nuit, on ne s'inquiète pas trop, mais quand on voit que la journée il ne part pas non plus, la deuxième nuit, on dort un peu moins bien. Hein. Pour l'instant, c'est toujours parti. Des fois, c'est juste le barboteur qui est mal mis. Hein.
On sent qu'il y a cette idée d'ancrage local. Autant parler, parce qu'à la base, vous étiez un groupe de potes dont certains sont devenus brasseurs pro. Tu aimerais cultiver les levures que tu as sur le lieu. Et je crois que tu as pour projet de faire des cuvées avec les fruits qui sont cultivés dans ton jardin. Il y a vraiment une volonté d'ancrage ultra local dans ton projet de brasserie, ou c'est une impression ?
Non, c'est pas une impression. C'est que j'ai envie d'aller chercher mes propres fruits. J'ai énormément de petits fruitiers comme les groseilles, les cassis, quelques framboises et des caseilles, des groseilliers à macro, de tout réunir ensemble quand tout sera mûr, et puis voilà, de mettre ça dans une barrique et faire une barrique qui a contenu les fruits que j'ai plantés, que j'ai récoltés. C'est l'objectif. Après, moi, je ne vais pas tous mes fruits que je vais utiliser pour certaines cuvées que je vais sortir, je pense, en 2021. Ça sera que des fruits locaux, déjà. Ça part déjà de là. Donc, ça sera aller chercher des cerises dans le verger du copain, parce qu'ils ne ramassent pas tout. C'est pas prendre la purée de fruits comme beaucoup de brasseries font. C'est pas que je ne critique pas ça, mais je me suis mis un peu la pression là-dessus, parce que je me dis que c'est tellement facile d'acheter un seau de purée de fruits, alors qu'on a tout dans la nature, et on peut aller chercher même en forêt sur des cerisiers sauvages. On peut aller chercher du sureau. On peut aller cueillir les framboises, les myrtilles, je dirais pas ça, parce que je trouve que dans une bière, ça apporte pas grand-chose. Pourquoi pas le mélanger un peu pour compléter mes petits fruits rouges du jardin ? C'est à étudier. Moi, je suis passé voilà, par acheter plein de houblons américains, par trouver le dernier houblon. J'ai été un peu, comment dire, un peu dégoûté de tous ces goûts qu'on retrouve dans toutes les bières, et c'est la chasse au dernier houblon. Alors que des houblons, on en a en Alsace qui peuvent faire largement le boulot. Je parle pour mon style à moi, hein. Je dis bien, après je comprends très bien que pour une grosse IPA, si on veut des goûts très exotiques, l'Alsace n'est pas fournie pour ça, mais on peut trouver d'autres goûts. Après moi le houblon, dans ce que je fais actuellement, c'est vraiment plus ou moins un antibactérien, parce que j'utilise des houblons surannés, houblon alsacien bien sûr, de certaines brasseries qui n'étaient plus conservées dans de bonnes conditions, qui n'étaient plus au congélateur, qui étaient trop vieux. J'utilise ces houblons-là parce que ça leur donne peut-être une seconde vie. Au lieu qu'ils finissent au compost, ben, ils finissent dans une autre bière.
Houblon 100% alsacien ?
Alors 100% alsacien et quelques allemands, mais vraiment proches de la frontière. Sur le malt aussi, que actuellement ben, je ne suis pas local. Donc pour le moment, je travaille avec une boutique de Colmar, le comptoir du brasseur. C'est du malt anglais. Mais je suis en train de regarder pour trouver le malt qui est malté à l'art en Allemagne, avec l'orge brassicole du Grand Est.
On parle souvent du houblon et on sent qu'il y a une vraie filière qui se développe avec des nouveaux houblonniers de plus petite taille que les historiques. J'ai l'impression que la filière malte, en fait, c'est encore très compliqué, même si on produit beaucoup d'orge, mais on va avoir du mal à trouver de l'orge maltée sur place.
Donc à 40 km, on a une malterie en Allemagne et il me semble qu'il y a un projet sur Ungersheim ou Ensisheim, je ne sais plus, d'une petite malterie qui est en cours.
Au niveau des maltes, vu que tu travailles différents styles, donc tu utilises vraiment tout le panel de maltes qu'on peut avoir ou...
Non, j'ai jamais utilisé tout le panel de maltes qu'on peut avoir, même si je vais faire un gros Imperial Stout. En gros, j'ai 4 sortes de maltes. Du Pils, je vais avoir du blé, je vais avoir un malt Cara à 1500 pour donner des couleurs bien noires, et je vais avoir un Cara Munich 150. J'ai toujours travaillé comme ça, j'ai jamais eu plus de sortes de malt. Après, si je veux faire une bière à l'épeautre, oui, effectivement, on va mettre d'autres sortes de malt. Je ne le mélangerai pas forcément avec les autres. Je travaille très simplement mes recettes pour mes blondes, c'est tout simple, hein. C'est un 70% pils et un 30% blé. Je fais aussi du 100% pils, ça peut arriver, mais la base, c'est vraiment 70-30.
Tu parlais avant de pourquoi pas faire des vieillissements en fût de whisky. Est-ce que tu as déjà essayé de travailler des maltes fumées ou...
Alors, j'ai déjà essayé de travailler des maltes fumées, mais avant. Actuellement, c'est pas trop dans mon style les bières fumées. Je dirais plutôt un malt tourbé qu'un malt fumé. C'est pas exclu qu'il y ait une barrique avec un malt tourbé.
En Alsace, on a quelques endroits où on commence à faire du whisky. Meyer, qui est dans le coin de Célestat, par exemple. Est-ce que tu as déjà essayé de les démarcher ou est-ce que c'est compliqué ?
Pour l'instant, j'ai démarché personne. Donc, le moment venu où ça me prendra, bah, j'irai voir s'il y a possibilité de trouver une barrique. Mais pour l'instant, je n'ai pas cherché à trouver des fûts de whisky.
Quand tu brasses et que tu utilises une barrique, c'est quoi le devenir de cette barrique ? Est-ce que tu la jettes ? Est-ce que tu l'échanges ? Est-ce que tu la réutilises ?
Le devenir de cette barrique, on va l'utiliser jusqu'à ce qu'elle fuit. Elle a pris les levures, elle a absorbé plein de Brettanomyces. On va essayer de la réutiliser, peut-être avec une autre souche de levure. Et au bout de 5 ans, ben, il y aura peut-être des goûts différents, mais vraiment des mix de levures.
Parce qu'on sait qu'il y a des fois des allers-retours qui se font entre les brasseries où ça va être un fût qui aura contenu du whisky, va servir à faire de la bière, ça va retourner sur du whisky ou des cidres ou ce genre de choses. Est-ce que tu as ce genre de projet un peu dans les tuyaux ?
Non, je suis un peu dans le même concept que les vins nature, c'est que les barriques, on les utilise jusqu'à ce qu'elles ne marchent plus et qu'elles fuient ou qu'elles ne sont plus réparables. Pour le moment, je n'ai pas envie de me séparer de mes barriques et je pense que... Tous les microbes qui sont dedans peuvent apporter encore plus de choses par le temps. Et les barriques, je les aime bien vieilles, moi.
Donc c'est vraiment pour faire vieillir en fait ton chai et, voilà. Et déjà apprivoiser les barriques que tu as.
Voilà. Et puis peut-être quand elles donneront moins de goût, on va dire à un moment, elles ne vont plus donner de goût de pinot noir, elles ne vont plus donner de goût de bois, mais elles vont peut-être faire des assemblages pour justement donner un autre côté typique à la bière.
Alors avant, on a un peu visité ton installation et j'ai vu dans la cave, là où il y a les barriques, il y avait une espèce de barrique qui avait l'air plus vieille que les autres. Est-ce que tu peux m'en parler de celle-là?
Alors cette barrique, c'est le tonnelier de Beblenem qui a cherché à trouver une brasserie pour récupérer cette barrique de fine d'Alsace. C'était une fine d'Alsace qui a contenu donc de l'alcool pendant 30 ans. Elle date de 1983. Et elle a contenu pendant 30 ans de la fine d'Alsace. Aucune brasserie du coin n'a vraiment voulu récupérer cette barrique. Ils ne savaient pas quoi en faire dedans. Et c'est arrivé par le biais de chez Tal qui m'a dit « Appelle la brasserie SPO, à mon avis, lui, il va sauter dessus. » Et il m'a appelé. Et puis oui, effectivement, moi, ça m'intéressait tout de suite. Alors, sur cette barrique, ben, j'ai fait une gauze dedans. Pour la simple et bonne raison que je voulais pas faire comme tout le monde un gros Imperial Stout dans une barrique de spiritueux. Donc c'est celle qui est commercialisée là actuellement, presque en rupture de stock. J'ai refait une deuxième version, on va dire, dans cette barrique qui sortira, je pense, l'année prochaine.
Toujours en gauze ou...
Toujours en gauze.
Avec le temps, tu as un peu acquis cette réputation du brasseur fou et dès qu'il y a quelque chose d'un peu qui sort de l'ordinaire, on lui propose.
Oui, j'ai toujours cette réputation du brasseur qui a pas peur d'une idée qui est farfelue qui va lui tomber dessus. Hein. Mais il y a certaines idées qui sortiront qui sont bien farfelues et vous verrez ça l'année prochaine.
Comment t'élabores tes recettes?
Ça vient d'où les idées?
J'en rêve la nuit, donc on note le matin, et puis des fois, y a des illuminations. Après, l'avantage de la barrique, c'est qu'on peut faire une recette de base et rajouter un fruit, une fleur, quand ça nous prend, ou si on trouve que la bière elle manque un peu de goût, parce que la levure utilisée n'est pas forcément puissante, on peut toujours lui rajouter des fruits et faire des tests. En fait, continuellement, on est dans les essais permanents. Donc. Mais c'est très intéressant.
Que tu fasses des essais permanents sur, je dirais, un brassage classique, je peux le comprendre, parce que tu as des échéances qui sont courtes. Mais là, quand tu sais que ta bière, tu ne vas pas la commercialiser avant un an et demi, deux ans, c'est quand même risqué comme pari.
Oui, mais moi, ça me va. Pour l'instant... Je suis content de ce que je fais.
Et tu avais aussi ce côté vraiment expérimentation avant, quand tu brassais de manière plus conventionnelle, j'ai envie de dire.
Non, j'avais toujours ce côté expérimental. Un exemple, c'est qu'un jour, ça m'a pris d'essayer de sortir une IPA en 2 heures. Un empâtage de 30 minutes, un rinçage, mais le plus rapide possible, et une ébue de 30 minutes. Un refroidissement, et puis c'était parti. C'était pas exceptionnel, mais c'était très buvable. J'ai sorti des bières aussi, une bière de Noël avec des écorces d'orange et du rhum macéré pendant 30 jours, le rhum et les écorces d'orange. Et j'ai tout balancé dans le fermenteur. Ça donnait une bière avec goût petit punch.
Est-ce que tu as ce côté un peu, je dirais, geek au niveau du matériel ou tu es sur des choses simples, éprouvées
Pas du tout geek. Pas du tout, du tout. Moi, mon matériel, c'est 3 cuves Polsinelli. Donc, j'ai une 150 litres, une 200 et une 300. Je suis au gaz. J'ai un thermomètre manuel. J'ai jamais voulu investir, peut-être aussi. C'est peut-être ça, parce que quand on veut brasser avec un Broumonc, c'est tout de suite un investissement assez important. Alors que pour 50% du prix, on peut avoir du super matériel à l'ancienne avec un gaz.
Donc du simple, de l'efficace.
Oui.
Et typiquement, une journée de brassage pour toi, ça dure combien de temps?
Alors typiquement, ça dure à peu près entre 6 heures quand même. Hein. C'est 6 heures de temps, presque 7 avec le nettoyage. Le plus long, c'est la montée en température, je pense, pour l'ébullition. Parce que quand on a ces volumes-là, faut avoir vraiment un gros bulleur en dessous. Et encore, c'est pas évident que ça monte à 1 degré minute. C'est surtout la montée en température qui me fait perdre énormément de temps.
Une des premières choses qui surprend un peu quand on visite ton local de brassage, c'est ton fourquet. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Alors, mon fourquet, c'est une idée de mon copain artiste qui me fait les étiquettes, qui m'a dit un jour, parce que moi j'avais toujours des morceaux de bois avant, hein, donc j'avais même pas de fourquet, c'était un morceau de bois qui remuait, et il m'a dit, tu peux aller chez Espoir à Colmar, ils ont des pagaies, tu verras, ça marche super bien. Prends une pagaie de RAM, ça coûte 3 euros, ils les vendent, et tu les perces, et puis ça fait un super fourquet. Ça fait 5 ans que j'ai ce fourquet, et je peux vous dire, je m'en séparerai pas. Il est historique à la brasserie.
Mais un jour, quand tu feras des gros gros volumes, tu seras bien obligé de le remplacer, non?
Je pense que même les gros volumes actuellement, c'est pas vraiment prévu. Là, je viens juste d'avoir une brasserie locale qui m'a prêté du matériel. Donc, il m'a prêté une cuve 300 litres Polsinelli. Je remercie encore Max de la Boomer qui m'a énormément aidé là-dessus. Tant que je peux remplir une barrique par brassin, pour l'instant, ça me convient très bien. Je ne pense pas passer à plus gros.
Tu brasses toute l'année ou est-ce que tu as une saisonnalité au niveau de ton brassage?
Alors, je vais brasser toute l'année, mais je vais diminuer quand même à l'été parce que comme je vais embouteiller bientôt une nouvelle bière, je vais devoir rebrasser pour remplir ma barrique. Donc là, je vais utiliser les levures, je pense les levures saison qui ont une tolérance à la température plus importante que si on prend une autre levure, même une Brettanomyces.
Quand tu vides une barrique, tu la remplis dans la foulée?
J'essaie de la remplir, on va dire, pas dans la foulée, mais dans la semaine. Je la nettoie, enfin, je fais juste un rinçage d'eau, hein, et ensuite je la remets en place et je la remplis, oui, avec la bière.
C'est rinçage à l'eau chaude?
Rinçage à l'eau chaude.
Rien de plus?
Non.
Pour l'instant, si je veux m'acheter une bière de chez Spo, je peux en trouver où?
Alors, actuellement, on peut en trouver en brasserie. Dans la vallée de Munster, il y a deux boutiques, au Plavin dans la Grand Rue et puis à la brasserie Thal à Viroval, qui vend mes références au même prix que la vente de brasserie. Après, sur Strasbourg, il y a le Village de la Bière et Bibine Épinard. À Rosheim, il y a Power Beer, CAF Webshop qui va se lancer le 1er juin. Le biérologiste à Saverne. Fine and Bottle qui devrait être livré là sous peu. Underdog à Rouen, courant du mois de juin. Plante et le Loup à Lyon.
Plutôt des cavistes au niveau local et quelques vendeurs par correspondance. Comment tu les as choisis?
Et j'ai oublié le raisin à Épinal.
Ok, et comment tu les choisis, les gens qui vont...
Alors pour l'instant, j'ai choisi personne, j'ai démarché personne, à part les deux boutiques à Strasbourg où je les ai contactés, tout le reste, c'est les gens qui m'ont contacté, j'ai eu un bon feeling avec eux, donc... Et j'ai aussi oublié Hyper Boisson à Wittenheim.
D'accord, donc pour l'instant, c'est vraiment plus des histoires de rencontres.
Voilà, c'est plus des histoires de rencontres, et puis de toute manière, j'ai pas le volume pour aller voir... 25 000 personnes, c'est pas possible.
Et t'as refusé des gens ou pas?
Pour l'instant, j'ai refusé personne. Mais là, je vais être plus ou moins obligé de refuser puisque je vais arriver à un point où ben, si j'ai plus de bière, je peux pas proposer. Donc actuellement, c'est plus ou moins les premiers servis qui seront prioritaires sur les nouvelles. Et on verra au fur et à mesure du temps comment on gère tout ça.
Oui, parce que finalement, tu vas vite arriver à ce qui est le problème de toute jeune brasserie. C'est que ta production, elle est presque vendue avant qu'elle soit produite.
Alors, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est bien? Le problème, ça dépend pour qui c'est, hein. C'est pour le consommateur, c'est un problème. Pour le brasseur, c'est pas vraiment un problème, même si ça l'embête qu'on ne puisse pas fournir certaines personnes parce qu'on n'a plus de stock. Mais c'est le but premier, ce n'est pas aussi de faire du volume, c'est de continuer à faire ce qui me plaît moi. C'est sûr, je ne pourrais pas sortir une bière en 3 semaines, comme certaines brasseries peuvent le faire. Moi, il y a un temps, et le temps, ben, c'est entre 12 et 18 mois.
Avec l'engouement qu'il y a à l'heure actuelle pour les bières vieillies en barrique, les spontanées, tout ça, est-ce que tu n'as pas été un peu surpris par l'accueil que tu as eu où d'un coup il y a une sorte de... Mais il y a de la barrique qui se fait en Alsace et de la barrique exclusive et donc d'un coup les gens étaient super intéressés. Tu t'es dit, ah ben ça va être plus compliqué de démarrer doucement.
Ah ben oui, j'ai été très surpris. J'ai été même... ça m'a même fait un peu peur parce qu'il y a eu, on va dire, un teasing qui s'est fait sur ma brasserie et je m'attendais pas du tout à ça. Même au moment où j'ai eu l'accord des douanes, que j'ai mis un poste comme quoi c'était bon, je pouvais commencer à vendre. Même à ce moment-là, je me suis dit, ouais, ben, ça va se calmer, je vais encore avoir du stock pour fin juin, mais je pense que fin juin, fin mai, ça risque d'être très difficile de pouvoir fournir encore les professionnels, on va dire. Parce que les particuliers, j'ai un mode de fonctionnement où je vends à, on va dire, entre 60 et 65% pour les professionnels. Je vais garder 30% pour les particuliers et me faire un petit archivage de 5 à 10% pour voir l'évolution dans le temps ou peut-être revendre cette série de bières d'ici un an ou deux.
Est-ce que tu n'as pas un peu eu peut-être de la frustration en disant mince, mais si ça se trouve là, fin mai, j'ai plus rien à vendre. Et les prochaines bières que j'aurai à vendre, c'est quoi l'échéance? C'est presque.
Ah bah, je vais en embouteiller une début juin. Donc je vais encore embouteiller. Là, c'est encore une barrique de 350 litres, donc ça fera un peu plus de volume. Et ensuite, j'ai une échéance, une barrique que j'embouteillerai début septembre. Et je compte en faire une fin novembre.
Donc ça va, il y a quand même... régulièrement réapprovisionner.
Il y a de quoi réapprovisionner un peu. Et après, je partirai sur une barrique mensuelle.
Ok, donc une barrique par mois que tu embouteilles.
Pour
donc
commencer l'année prochaine, ça sera une barrique par mois que j'embouteillerai pour justement prévoir, avoir toujours une sortie tous les mois d'un style de bière que j'aurais faite l'année d'avant.
On a abordé un peu le sujet, mais chez toi, on ne peut pas vraiment parler de gamme, finalement, parce que ça évolue énormément et c'est amené à évoluer dans le temps aussi, je pense.
Pour moi, chaque bière que je sortirai, chaque bière est unique. Il n'y aura jamais le même nom sur l'étiquette. Ça sera toujours une autre bière parce que la barrique, même si c'est la même barrique, même si c'est la même recette dedans, la barrique ne va pas recracher les mêmes goûts au premier passage, au deuxième et au troisième. Donc ça ne pourra jamais être la même bière. Si on se met à faire de la gamme en barrique, ça commence à être très très compliqué. Voire impossible d'avoir la même stabilité de produit. Les gens ne retrouveront pas forcément ce qu'ils ont bu dans la première, dans la deuxième.
Je pense qu'on ne va pas fonctionner uniquement en cuvée, entre guillemets. Ça sera vraiment des styles et des cuvées en fonction des styles, finalement.
Ça sera vraiment des cuvées. Ouais, je vais quand même essayer de fonctionner en millésime. Et chacune de mes bières, il y aura le millésime de la bouteille. Ça permettra aussi de se retrouver en fonction, si on laisse traîner la bouteille, ça permettra de se retrouver, dire « Ah, bah ça, c'est une vieille bière ».
Est-ce que tu as aussi cette espèce d'objectif d'avoir un jour une verticale des bières que tu as produites? Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête déjà ou...
Oui, je l'ai en tête puisque j'ai parlé d'archivage avant, donc c'est pour pouvoir les goûter dans 2-3 ans, voire plus. Donc oui, je l'ai en tête. Mais comme c'est jamais les mêmes bières, ça sera des verticales sur une barrique, je pense.
Ok, donc vraiment pas forcément se dire je fais une verticale de gauze, mais une verticale de cette barrique.
Une verticale de cette barrique.
Pour essayer effectivement de retrouver peut-être qu'est-ce qu'elle a vraiment apporté intrinsèquement à la bière.
Au fur et à mesure du temps, voir ce que ça peut, comment ça a évolué. Et même si c'est pas la même sorte de bière qu'est dedans, bah on peut ressentir encore peut-être le goût de la barrique qu'on avait au départ.
Ok, bon bah est-ce qu'on goûterait pas quelques bières maintenant?
Bah si, on va goûter.
Non mais laissez-moi enlever ma moustache et à bientôt sur le Tipeee.